cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Here we go. CO62-290. No title. Take one.
Hey, Wynn, after Cannonball, you play again and then we'll come in and end it. It's too fast.
Miles, where are you going to work now?
Right here.
Okay, because if you move back, we don't get you. You were right when you played before.
When I played, I'm going to raise my horn a little bit.
Okay.
Can I move this down a little bit?
It's against policy to move a microphone.
Trust me, man.
Here we go. Ready? Number two.
Bonjour Alain Lekim.
Bonjour.
Alors Alain Lekim, vous êtes à la tête d'une entité qui s'appelle Soundstrips, une société que vous avez fondée, qui en fait réunit des documentaires un petit peu particuliers, qui ont un sujet commun. Vous inspectez, vous scrutez, vous rencontrez des gens de l'univers audio, plutôt professionnel en général. Donc on touche aussi bien home studio qu'à des professionnels, tout type de personnes passionnées, on va dire, par le son. Et ces gens-là, vous allez les voir, vous les rencontrez, vous les filmez, mais de manière un peu originale, en profondeur. Alors, la question qu'on est toujours évidemment de tenter de vous poser, c'est comment vous en êtes arrivé là et comment on décide tout à coup de monter cette société Soundstrips.
Ben, en effet, c'est une question à laquelle je m'attendais, évidemment. Ben, ça a commencé quand j'avais 14-15 ans. Je me suis toujours intéressé à la musique, évidemment.
Vous écoutiez quoi ?
J'écoutais pas mal de musique classique. Ça, c'était mes parents qui nous faisaient écouter. Donc, j'ai découvert assez vite la musique classique. Et vers 14 ans, c'est l'époque yéyé. Hein. J'écoutais absolument pas les yéyés parce que toute l'école ne parlait que de ça. Au lycée, ils parlaient que de ça. Donc, moi, je me suis mis à écouter du jazz. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombé sur une époque extraordinaire, hein, le milieu des années 60, c'est vraiment l'époque fantastique pour le jazz, il y avait Miles Davis, Thelonious Monk, tous ces gens-là. Et j'ai eu une autre chance, il y avait une boutique Place Saint-Germain-des-Prés qui s'appelait Vidal, un marchand de disques, et il y avait un vendeur de disques qui avait un goût pour le jazz extraordinaire, et c'est lui qui me conseille. Moi, j'y allais, bon, disons une fois tous les 15 jours, avec fonction de l'argent de poche que j'avais. Et il m'a fait acheter tout ce qu'il fallait acheter à l'époque, que ce soit Miles Davis, Thelonious Monk, incroyable, vraiment, Bill Evans, tous les grands, grands du jazz. Et il y avait une autre chose aussi qui m'est arrivée, parce qu'à l'époque, j'écoutais les émissions de jazz sur, je ne sais pas si c'était France Inter ou...
Europe 1,
j'écoutais pas les radios, je détestais déjà la pub, donc j'écoutais pas ces radios-là, mais il y avait donc des émissions de jazz, et il y avait des concerts à la Maison de la Radio, qui à l'époque était assez récente, il y avait des auditoriums qui existent toujours, et il y avait des concerts de jazz vers 6h du soir, et là, c'est le seul moment où mes parents me permettaient de sortir, parce que j'étais quand même très jeune, et j'allais à ces concerts de jazz, et j'ai vu Thelonious Monk, Miles Davis... Bill Evans, enfin tous les grands du jazz. Là, j'en cite que 3 ou 4 parce que Mais je les ai vus. Et bon, c'était formidable. Enfin, ça m'a beaucoup marqué.
Est-ce que cette passion pour la musique à ce moment de votre vie était également liée avec une passion pour le son? C'est-à-dire que déjà vous étiez hypnotisé par quand vous achetiez ces disques que vous rameniez chez vous?
J'allais y venir. En fait, oui, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est technologique et. Et donc, très très vite, donc j'ai fait acheter à mon père une stéréo, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un électrophone stéréo. Donc, j'ai fait acheter ça à mon père. Alors après, ils étaient tout contents d'avoir ça dans la maison. Ça marchait pas trop mal, c'était pas formidable. Mais moi, évidemment, je cherchais à mieux, et j'ai commencé à m'intéresser à la haute fidélité. Et très vite, j'ai acheté du matériel audiophile à l'époque, mais très 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 pointu, pour mon âge, parce que j'avais évidemment pas beaucoup de moyens. Donc j'achetais un bras SME, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, pour les audiophiles sauront, mais je n'avais pas d'argent pour acheter le reste, donc j'avais un bras dans une boîte en carton, et j'attendais un mois, deux mois pour acheter la platine, puis après j'attendais encore deux mois pour acheter la tête de lecture, et j'ai fini par avoir un système de lecture qui était très bon, mais je n'avais pas les moyens d'avoir les bons haut-parleurs à la hauteur du système de lecture. Donc j'avais un casque. et un préampli. Et que j'ai fait moi-même. Et voilà, c'est comme ça.
Vous avez fait vous-même ?
Oui, en kit, hein, c'était pas un truc extraordinaire, mais bon, c'était... Donc c'est comme ça que je me suis mis à vraiment écouter très très sérieusement, et écouter vraiment les sons, etc. Et puis une autre chose aussi qui me revient là, c'est qu'en allant voir ces concerts, donc on attendait avant que les musiciens arrivent, heureusement ils étaient à l'heure, et je regardais les microphones, j'étais déjà fasciné par les microphones, je ne sais absolument pas pourquoi, mais ça me fascinait de voir ces chops là qui étaient sur ses pieds, ça paraissait très mystérieux et très très beaux objets, on voyait que c'était quelque chose de très raffiné. Et ça m'a toujours marqué, ça. C'est très curieux, mais j'oublie pas du tout. Encore, j'ai encore dans la tête l'image de ces auditoriums avec ces micros qui attendaient les musiciens, qui devaient être placés remarquablement bien, parce que l'ORTF est une école, une grande école pour le son. Donc, on sentait déjà quand on allait dans ces auditoriums, on sentait déjà que les gens étaient très très concernés par la qualité du son. En particulier justement les microphones.
Quand on en arrive alors justement entre cette partie-là, ces débuts de cette naissance d'une passion, à Soundstrips.
Alors, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Donc je suis devenu photographe, donc j'ai fait une carrière dans la photographie. Et puis un jour, on m'a demandé de faire des films sur un sujet que je connaissais assez bien. C'était un peu un hasard, mais je suis passionné de cinéma, donc je me suis dit, formidable, je vais faire un documentaire. Et j'osais pas le faire, je me suis dit, je vais l'écrire. Donc j'ai commencé à discuter. C'était des films sur l'aviation pour la chaîne Planète. Et au bout d'un moment, j'avais écrit les films, j'avais négocié les droits avec les constructeurs des archives, enfin j'avais fait tout ce travail. Et on trouvait ni producteur, ni réalisateur. Alors, donc le directeur de la chaîne m'a dit, écoute, t'as qu'à les réaliser toi-même. J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. Et alors, il m'a dit, on va trouver un producteur et tu le feras parce que c'est pas compliqué. Tu prends des techniciens et c'est toi qui vas, tu sauras exactement. Et je suis parti comme ça. J'avais jamais fait de film de ma vie. J'en ai fait une quinzaine de films sur l'aviation. Ça m'a passionné. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de faire des films que de la photo. Et c'est comme ça que je suis revenu au son. Parce que une des premières choses que m'a dit ce directeur des programmes, il m'a dit à la télévision, le son c'est 70%, l'image 30%. J'ai jamais oublié ça. Parce que moi, je suis un homme d'image au départ, c'est mon métier quand même, la photographie. Mais il m'a dit ça et ça m'a frappé. Et toutes les choses sur le son que je connaissais sont revenues. Et je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, la télévision, on s'en va, on écoute, on regarde un programme et puis on va dans la cuisine chercher un verre d'eau. On continue à écouter le programme et on ne regarde pas les images. Ce qui compte, la manière dont on suit un programme de télévision, c'est par le son.
Et puis pour vous, le passionné de musique, c'est le son, c'est la musique, c'est aussi le langage. Donc c'est les deux, les deux choses.
Voilà. Et donc voilà. Et alors après, il y a une histoire assez... la raison vraiment qui m'a fait plonger dans ces documentaires sur le son, c'est qu'un jour, j'avais d'autres films à faire et le producteur me dit « Oh, on n'a pas de budget, il n'y aura pas d'ingé son. » Et là... j'ai piqué une crise parce que pour moi, c'était absolument impossible de faire un film sans un ingé son, d'autant plus que je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Donc l'ingé son, c'était presque celui qui me guidait, presque au moins autant que celui qui faisait l'image, sinon plus. Parce que lui, il me disait, par exemple, tu ne peux pas interviewer là parce qu'il y a du bruit qu'on n'entend pas, parce qu'évidemment, si on n'est pas habitué, on est dans la rue, on oublie le bruit, en fait. Les oreilles l'éliminent. Et moi, je voyais pour interviewer des gens, des scènes très belles ou des endroits, des décors formidables. Et puis l'ingé son me faisait un grand signe, non, tu peux pas. Alors je lui demandais pourquoi et puis il me mettait le casque sur les oreilles. Et là, évidemment, c'était immédiat. On entendait le bruit de la rue, on entendait les camions qui passaient. Enfin, c'était l'horreur. Donc évidemment, il fallait que je trouve un autre endroit. Donc,
Votre rapport à l'image a changé justement à partir de là quand vous avez commencé à...
Un petit peu. Mmh. Il a changé parce que quand on fait des films, on ne fait plus de la photo. Justement, on écrit, il y a une suite d'images, etc. Et justement, quand on fait des documentaires, en fait, c'est quand même basé beaucoup sur des interviews. Et évidemment, on monte sur le son au lieu de monter sur l'image. Donc, ça m'a beaucoup changé.
Est-ce que ça a changé aussi le mélomane que vous étiez ? Est-ce que ça veut dire que vous écoutiez avec une oreille différente ? Aussi bien lorsque vous étiez dans des concerts que quand vous mettiez un disque sur votre chaîne Hi-Fi.
Je ne dirais pas ça, parce que ça m'était déjà arrivé, ça, d'écouter de manière très analytique le son. Malheureusement, je n'ai aucune formation musicale et ça, je le regrette terriblement, mais je pense que je suis quand même un peu vieux pour m'y mettre. J'ai plus beaucoup de temps pour faire tout ça. Mais, donc, j'ai pas de formation musicale, mais par contre, j'écoute quand même très, très. Quand j'écoute, j'essaye de discerner tous les instruments. Et ça, je l'ai toujours fait depuis que j'ai des très bonnes chaînes. Évidemment, c'est une des choses qu'une très bonne chaîne audiophile permet, c'est justement de discerner chaque instrument et de comprendre la ligne de basse ou pourquoi le piano est placé comme ça, etc. Et aussi de repérer les mauvais enregistrements, parce que plus la chaîne est bonne, plus les défauts s'entendent.
Est-ce que vous avez rapidement délimité le champ d'action de Soundstrips quand vous avez commencé à lancer cette aventure? Vous saviez exactement?
Ça s'est passé assez simplement en fait, parce que donc ce choc du producteur qui m'a dit pas d'ingé son, j'ai acheté des microphones pour les films suivants que j'ai fait. Je me suis dit je peux pas laisser le microphone sur la caméra, c'est l'horreur. Donc j'ai commencé à m'acheter des microphones et là. Ben là, c'était pour moi comme les objectifs d'appareils photo. C'était un truc, je me suis pris d'une espèce de passion pour ces objets incroyables qui sont en fait des transducteurs. C'est essentiel en fait. On oublie trop vite ce que c'est qu'un microphone. Donc voilà, j'ai commencé, je me suis dit je vais faire un documentaire sur les microphones. Et tout le monde m'a envoyé balader en me disant mais ça n'intéresse personne, on s'en fiche des microphones, etc. Et moi, je ne comprenais pas. Et alors, de fil en aiguille, j'ai pris contact avec des fabricants, des professionnels par un réseau. Comme ça, j'ai rencontré deux ou trois personnes qui m'ont branché sur d'autres gens parce qu'ils voyaient que ça me passionnait. Et je me suis dit, mais au fond, je n'ai qu'à faire des documentaires sur chaque partie de la prise de son, c'est-à-dire non seulement des ingénieurs du son, mais ceux qui fabriquent les machines. Puisque maintenant, on ne peut plus considérer la musique en dehors de l'électronique. Toute la musique est enregistrée, même la musique classique, on peut aller au concert et oublier complètement l'électronique. Mais si on veut écouter chez soi de la musique, ça passe obligatoirement par des microphones, des amplificateurs, des enregistreurs, des ordinateurs, etc. Donc très vite, je me suis retrouvé à rencontrer toutes sortes de gens dans ce métier. Et j'ai eu la chance d'être bien guidé. Et puis le nez aussi de m'intéresser vraiment à ce qui est le plus pointu. Ça vient aussi de ma passion pour le son audiophile, donc j'avais déjà une bonne exigence, plus le métier de photographe où on apprend quand même à être très exigeant sur le matériel. Donc là, je me suis orienté vers pratiquement tout ce qui se faisait de mieux, et voilà. Donc l'orientation sur les films que je fais, c'est ça. C'est-à-dire que je m'intéresse essentiellement aux produits les plus originaux et les plus aboutis, Et en tant que réalisateur, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le rapport entre ces machines qu'on utilise et les personnes qui sont derrière.
C'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai qu'en entendant cette description, on pourrait penser à quelque chose de très technique, éventuellement rébarbatif pour les personnes qui ne sont pas complètement imprégnées. Mais effectivement, vous avez parlé au début, vous étiez fan de cinéma, vous étiez photographe. Il y a ces films, on vous racontait aussi un peu une histoire, d'une certaine manière. Vous êtes un narrateur, ce n'est pas uniquement juste une sorte de film, on pourrait dire, promotionnel et de démonstration technique. Ce sont vraiment des films à part entière. Comment se passe à chaque fois, j'imagine, l'écriture? Bon, vous avez la rencontre, il y a effectivement la création elle-même, puis la personne, l'inventeur, on pourrait dire, parce qu'on a quand même des personnalités qui sont un peu des sortes de savants fous, quoi. C'est un peu des sortes de géotrouve-tout, du geek au vraiment passionné. Donc c'est ça qui est, j'imagine, assez fascinant aussi.
C'est un choix que je fais. Parmi tous ces gens, je choisis ceux qui sont les plus, les plus étonnants. Et évidemment, je m'intéresse au côté humain, parce que quand on fait un film, on peut pas, justement, vous l'avez parfaitement dit, on ne peut pas parler que de technique, c'est sans intérêt. Enfin, c'est pas sans intérêt, mais on peut pas faire une histoire avec ça.
Le but, c'est pas de faire un mode d'emploi via audiovisuel. Hein.
Ni de la promotion, ni même un film didactique sur un tutoriel. C'est absolument pas du tout ce que je fais. C'est le contraire, justement. Je me suis dit, je veux pas faire du tout ça, parce que ça n'intéressera pas. Et moi, ce que je cherche à faire dans ces films, c'est intéresser des gens qui ne connaissent pas, mais qui découvrent et qui se disent « Ah, c'est ça qu'il y a derrière. Quand j'écoute un disque, il y a tous ces gens-là derrière. » C'est un peu ça que j'essaye de faire. Et donc, je choisis des gens et je base mon film sur l'histoire, sur les gens. Je base mon histoire sur les gens. C'est-à-dire qu'en fait, vous me demandez comment on fait. Alors, j'ai une méthode assez particulière. Comme ce sont des toutes petites productions, je suis tout seul. Mais en fait, la raison essentielle pour laquelle je suis tout seul, c'est que je fais une véritable intrusion chez les gens. C'est-à-dire que je
leur, c'est le deal.
Exactement. C'est le deal. Je leur dis, voilà, je fais un film sur vous, ça ne vous coûte rien, parce qu'en général, ce n'est pas des entreprises énormes qui font ça. Mais par contre, vous m'hébergez. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, ça ne me coûte rien non plus. En termes de temps, ça me coûte. Mais en termes de je ne dépense pas d'argent. Donc je suis chez les gens. Et je vis avec eux pendant 15 jours. Quoi.
Qui a été votre premier cobaye?
Alors, le premier cobaye, ça a été Jean-Jacques Baquet, qui est le créateur des systèmes Clinger-Favre, qui est un monsieur qui est à Saint-Dié, dans l'Est de la France, et avec qui je me suis tout de suite parfaitement bien entendu, parce qu'évidemment, un personnage comme ça, il a tellement de choses à raconter. Et en plus, on est sur la même longueur d'onde, donc c'était facile, je dirais, entre guillemets, de l'interviewer, parce que je lui posais exactement les questions qu'il avait envie qu'on lui pose. Mais aussi, moi, j'avais envie de savoir comment il faisait. Et une autre chose, j'essayais de ne pas lui poser de questions ésotériques, entre guillemets, c'est-à-dire des questions que personne ne comprendrait ou qui serait tellement pointu que finalement ça perdrait son intérêt. Donc j'essaye toujours de revenir vers des choses assez simples pour que tout le monde puisse se dire « Ah ben, je ne savais pas que c'était comme ça, mais ça m'intéresse ».
Est-ce que le plus dur aussi, parce que c'est vrai quand on arrive sur ce genre de sujet, c'est de se retrouver à la fin avec des heures et des heures et des heures et des heures de rush. Et ce qu'il faut dire, c'est que voilà, comme on l'a dit au début, vos films sont des petits films avec un début, un milieu, une fin, il y a une trame. Donc évidemment, il y a toujours la tentation d'en rajouter plus, mais finalement, est-ce que à chaque fois vous vous retrouvez pas avec justement trop de matière et il faut essayer d'avoir ensuite d'apporter votre touche personnelle d'écriture cinématographique?
Alors, ce qui se passe, c'est que c'est devenu assez rodé maintenant. En fait, j'ai pas énormément de rush. Bon, mes films durent à peu près une heure et demie. Je dois avoir entre 15 et 20 heures de rush. Parce que je sais qu'au-delà, ça sert à rien puisqu'on l'enlève, quoi. Donc, quand je fais ces films, je commence la première journée, on filme pas. Ou alors je mets la caméra en marche pour les habituer, savoir qu'il y aura une caméra tout le temps pratiquement.
C'est la prise de contact.
Voilà, prise de contact. Et je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quelles sont leurs passions, autres que le fait d'être un fabricant de microphones ou d'être un ingénieur du son. Et je base l'histoire autour de ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la personne. Et je veux savoir pourquoi, justement, vous me posez une question, pourquoi j'ai fait ça. Moi aussi, je veux savoir pourquoi ils font des microphones, pourquoi ils ont passé leur vie dans des studios, pourquoi, voilà. Et donc, une fois que je sais à peu près ça, on établit un petit programme. Et j'essaye de trouver avec eux, de leur dire, trouvez-moi des gens qui utilisent vos machines et qui pourraient expliquer comment ils s'en servent, ou des gens que vous aimez bien, que vous respectez, enfin des contacts que vous avez. Parce que s'il n'y a que la personne dans le film, ça devient vite très fastidieux. Mmh. Donc j'essaye de mélanger des rencontres diverses dans le film de ces personnes, c'est-à-dire les gens qu'ils aiment bien ou qu'ils respectent ou qu'ils ont envie de voir dans leur film.
Est-ce que c'est vos héros, les héros de vos films, entre guillemets, se livrent facilement? Est-ce que j'imagine que chaque fois c'est une rencontre différente? Ils sont basés un peu aux quatre coins du monde, il y en a en France et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Comment ça se passe à chaque fois? J'imagine qu'il y a toute une partie d'approche. Alors évidemment, j'imagine que votre catalogue commençant à s'étoffer, inévitablement, pour approcher certains nouveaux cobayes, c'est toujours peut-être plus facile. Ils ont vu votre travail, mais j'imagine qu'au début, c'était peut-être pas le cas.
Au début, c'était très dur. Oui, au début, tout le monde me demandait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je disais « Parce que ça me plaît. » Alors, j'ai tout de suite eu une ou deux personnes qui ont été d'accord, notamment Jean-Jacques Baquet, qui est... Alors lui, au début, il se demandait ce que ça allait être, hein, évidemment. Il ne se rendait pas du tout compte. Et puis, il a accepté de le faire comme une expérience, parce que c'est quelqu'un de très curieux. Et bah, il s'est dit, tiens, on va faire une expérience, on va voir ce que ça donne. Donc, on a fait ce film. Après, j'ai rencontré des Américains. Et la première personne qui m'a dit oui, shake hands, c'est Ivana Manley, la personne qui dirige la société Manley, qui fabrique... du matériel haute fidélité et du matériel de studio à lampe. Et donc elle, je lui ai parlé peut-être 5 minutes lors d'un salon du son et elle m'a dit ok, on y va. Et je suis parti, je suis arrivé chez elle, je la connaissais absolument pas, enfin j'en avais entendu parler quand même, parce qu'à partir du moment où je ciblais quand même, les gens m'avaient dit il faut que tu fasses un tel parce que c'est une personne formidable, etc. Donc je savais un peu... qui était cette personne.
Comment se faisait justement le travail préparatoire si on prend cet exemple-là? C'est-à-dire, j'imagine que vous informiez, vous étiez un peu, il y avait un côté un peu explorateur, oui. Vous avez des méthodes de préparation à chaque fois?
Alors, le côté explorateur, c'est que j'ai beaucoup surfé sur Internet à regarder comment on faisait pour enregistrer et quelles étaient les machines les plus utilisées, etc. Et puis de fil en aiguille, on finit par apprendre. On se dit, tiens, bah oui, telle machine, on en parle tout le temps, tel type de compresseur, pourquoi celui-là et pas un autre. Enfin, on finit par avoir des informations, on pose des questions à des gens qu'on connaît, qui sont dans le milieu, et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, alors ça, c'est ce produit-là qui est le plus intéressant, ou celui... Ça, c'est un produit phare qui a une personnalité, et on contacte la personne, et voilà. Et après, on réfléchit, c'est ce que je vous disais. En général, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans le film quand je pars faire le film. C'est une véritable aventure. J'arrive et puis on y va. Quoi. Le travail préparatoire, c'est surtout de savoir qui je vais interviewer. Mais a priori, je ne sais pas ce que je vais mettre dans le film quand je pars. Et c'est ça qui est intéressant.
Le juste équilibre, c'est de se placer entre... l'interface inventée et l'inventeur, comment on jongle entre les deux quand, par rapport justement à votre problématique, vous êtes cinéaste, vous avez en face de vous un inventeur. On avait parlé effectivement au début de ce côté et humain et technique, d'essayer d'être entre les deux. Au bout du compte, vous avez plus l'impression de faire le portrait de la personne ou du produit, entre guillemets, ou des deux ?
Le portrait de la personne. Toujours, c'est toujours la personne que je favorise. Je trouve que c'est quand même ça le plus intéressant. Et ce que je trouve aussi, et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en général, le produit
ressemble à son
inventeur. Exactement. Exactement. Ouais. Chaque produit a des particularités, ou chaque machine, ou chaque ingénieur du son. J'ai fait un film sur un ingénieur du son français qui s'appelle Yves Jaget. Bon, quand on interviewe le bonhomme qui est formidable, et qu'on discute avec lui et qu'on voit comment il travaille, mais ça correspond exactement à sa manière de fonctionner. Dès qu'on le voit, dès qu'il vous serre la main, ça c'est exactement ce qu'il va faire pratiquement. C'est ça qui est assez intéressant. Mais pour les fabricants de machines, c'est même étonnant de voir à quel point les machines sont similaires à la personne, soit volontairement, soit complètement de manière inconsciente.
Thank you. De toutes ces aventures, je ne sais pas maintenant combien le catalogue Soundstrip...
J'en ai fait 8, j'en ai un 9e en montage et j'en ai 3 en cours. Là, qui sont, il y en a, j'ai commencé un peu à tourner, d'autres... c'est pas encore, d'autres c'est en train d'être réglé.
Donc dans cette dizaine, on va dire, d'enfants, alors c'est toujours difficile de choisir, mais est-ce qu'il y a, alors évidemment, je pense que pour chaque histoire, chaque aventure, en plus, comme vous l'avez dit, c'est une aventure humaine, puisque vous allez vous immerger, vous incruster chez les,
complètement.
Personnes, est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous, dont vous avez vraiment, qui vous ont un peu retourné, vraiment qui vous ont, que vous placeriez peut-être un peu au-dessus des autres? C'est un peu difficile, c'est comme demander à quelqu'un de choisir de ses enfants.
Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Parce qu'en fait, oui, je les aime tous. Non, mais sérieusement, ce sont tous devenus des amis, tous ces gens. C'est des gens que je ne connaissais pas et qui sont maintenant des amis. C'est-à-dire que quand je vais aux États-Unis, quand je vais à New York, c'est même incroyable. Bon, j'ai de la famille là-bas, donc, mais j'appelle une des personnes dont j'ai fait un film. Je l'appelle, il me dit « Tu es où ?» Et je le vois 2 heures après, on est ensemble. On dîne ensemble, où il me dit « j'ai un concert, je fais une répétition, je viens te chercher, tu veux assister ?» Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment des gens, c'est des amis. Quand je vais à Los Angeles aussi, j'habite chez une de ces personnes qui me dit « Maintenant, tu connais le canapé. » Effectivement, je dors sur le canapé. Enfin, c'est très, très... moi je trouve ça très très gratifiant sur le plan humain d'avoir fait ça.
Est-ce que d'avoir percé cette dizaine de mystères par rapport au son vous fait appréhender justement les problématiques de son différemment? Vous avez appris, j'imagine, énormément de choses évidemment, mais est-ce que votre oreille a changé, j'allais dire, avant Soundstrip et depuis?
Oui.
Et votre approche de mélomane, tout simplement?
Mon approche de mélomane, figurez-vous que c'est même très curieux. En fait, je suis revenu presque aux racines de ce qui m'intéressait, pratiquement plus encore. C'est très curieux, ça. Mais par contre, effectivement, maintenant, j'ai une oreille qui est très différente de celle que j'avais en tant qu'audiophile pur, parce que maintenant, j'entends des défauts qu'un audiophile ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Il entend, il se dit, tiens, j'aime pas, ou il y a un truc bizarre, mais il ne sait pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Je sais s'il y a trop de réverb ou si la compression est tellement forte qu'il n'y a plus de dynamique, ou si, enfin voilà, des choses que j'aurais pas pu mettre un mot dessus ou une explication. Maintenant, je la connais, l'explication. Je sais pourquoi certains disques sont inécoutables et pourquoi d'autres, au contraire, sont magnifiques.
Une déformation, parfois, justement. Quand vous écoutez un disque, finalement, il passe un peu à votre filtre auditif.
Absolument. Oui, c'est terrible. C'est terrible.
Vous regrettez l'époque où vous n'aviez pas toutes ces connaissances, presque?
Non, pas du tout. Non, au contraire, parce que maintenant, je sens tous les gens qu'il y a derrière. Je me dis, j'ai l'impression de leur rendre hommage. C'est-à-dire qu'il y a les musiciens que j'admire, et puis il y a tous ces gens derrière. Et mais je les trouve formidables, moi, tous ces gens. Je trouve que c'est quand même étonnant. La passion qu'ils mettent dans la conception des machines, par exemple, c'est incroyable. Ce sont vraiment des gens, ils font ça pour la musique, ils font pas ça pour gagner de l'argent. C'est ça qui est fou. Ils finissent par en gagner un peu, mais ils font surtout ça parce qu'ils ont envie que ça sonne mieux, que telle machine, ils ont entendu des choses qu'ils n'aimaient pas à l'époque, ou au contraire des choses qu'ils adoraient, et ils essayent de restituer cette époque avec, par exemple, des gens qui fabriquent des microphones le plus proche possible des micros classiques d'enregistrement des années 60.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets? Vous avez dit qu'il y avait des films en cours ou c'est top secret?
Non, il y a quelques-uns. Il y en a un, par exemple, je suis en train de monter un film sur un monsieur qui fabrique des choses à lampes et qui s'appelle Douglas Fern. Alors c'est des amplificateurs rouges, on les voit tout de suite quand on rentre dans un studio, on ne peut pas les louper, et c'est fabriqué comme une Rolls. C'est-à-dire c'est vraiment incroyable, et je dirais comme une Rolls, c'est à dessein, c'est pas une Porsche ou une Mercedes ou pas ultra moderne, c'est archi classique, mais il n'y a pas une chose qui ne soit pas réfléchie. Même la vis, il sait que telle vis c'est telle qualité et que c'est cette qualité là qu'il veut, et tout est monté à la main, et même les câbles quand ils sont courbés d'une manière précise, enfin c'est incroyable de voir comment c'est fait. Et c'est pas lui qui fait les machines, tout est sous-traité. Et c'est très amusant parce que donc le monsieur il a évidemment un laboratoire chez lui de pour concevoir des nouvelles machines ou mesurer.
Donc le canapé qui vous a reçu était dans le laboratoire ?
Pratiquement non, il avait une chambre pour moi. Mais il ne fabrique rien lui-même et on va chez des sous-traitants, et alors là c'est tellement rigolo. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Je suis arrivé par exemple chez un sous-traitant qui fabrique, donc il monte les amplificateurs, c'est-à-dire le gars il fait le câblage, il soude, etc. Et tout est fait à la main. Et donc on débarque dans une maison énorme. Il y avait deux Mercedes à l'entrée. Et puis il y avait un joli jardin avec une piscine. Et puis au fond, il y avait une belle petite annexe en bois, enfin à l'américaine, vous voyez comme ça peut être très joli. On rentre et on aurait dit un bureau d'architecte. Il y avait des vitres partout, tout était absolument impeccable. Et ce type-là a visiblement pas mal de moyens, mais sa passion, c'est de monter des amplificateurs. Et donc il se fait payer pour ça, mais bon, c'est pas ça qui lui permet de vivre. Hein. C'est ça qui est étonnant.
Est-ce que vous avez des cobayes de rêve, des personnalités que vous aimeriez justement filmer?
Il y en a encore quelques-unes. Oui, il y en a même pas mal. Il y en a même pas mal. Je ne sais pas si les noms disent quelque chose.
Si vous nous donnez peut-être l'invention qui va avec.
Par exemple, j'aimerais bien faire un film sur George Massenberg, qui est il est ingénieur du son, mais il a conçu aussi des compresseurs et des equaliseurs. Et c'est un monsieur qui a une réputation incroyable dans le domaine professionnel de l'enregistrement. Parce que, alors lui, c'est évidemment aucun compromis. Donc, ses machines sont extrêmement sophistiquées. Et sa rigueur au moment de l'enregistrement est incroyable. Par exemple, lui, il enregistre tout en live, on pourrait dire, dans un studio. Tous les musiciens sont ensemble. Et même lui, avec sa console, est dans le studio. Il n'est pas dans une cabine extérieure, il est dans le studio. Et il est au milieu des musiciens. Donc j'aimerais bien faire un film sur ce monsieur. Une des personnes, hein, il y en a pas mal d'autres que j'aimerais faire aussi.
Est-ce que vous, avec cette entreprise, vous avez un peu l'impression de résister presque, j'allais dire, à l'ère du temps? Vous prenez du temps, des films qui durent plus d'une heure, sur des sujets très précis, pointus, de gens qui sont souvent très très exigeants, vous avez dit sans concession, des gens vraiment qui ont une vision du son, de la musique, sans compromis, mais à laquelle ils adhèrent complètement. Est-ce que votre démarche, elle est finalement, vous n'êtes pas un petit peu comme eux, d'une certaine manière ?
Ça serait très flatteur, oui. J'aimerais bien être comme eux, j'aimerais bien avoir les mêmes exigences. Mais bon, on n'est jamais content de ce qu'on fait. On se dit toujours, oh là là, il y a un compromis, là, j'aurais dû faire ça, la prochaine fois, je ferai comme ça. Enfin bon, c'est une quête infinie. Hein. Effectivement, j'aimerais bien que ça soit parfait, mais ça ne peut pas l'être. Si c'était parfait, ça serait trop beau.
Maintenant que votre entreprise est lancée, qu'il y a une dizaine de films, qui vient vous voir, qui vous appelle, qui vous contacte, quels sont les, au-delà des intéressés, quel type de personnes s'intéressent à ce genre de film, on serait tenté de dire?
Les professionnels, déjà. Au début, ils étaient assez sceptiques. Maintenant, c'est eux qui me demandent de faire les films.
Vous avez trop de demandes, en fait, c'est ça?
J'ai trop de demandes parce que je ne peux pas faire plus de 2 films par an au grand maximum. Et là, effectivement, ça commence à un peu... Il y a pas mal de gens qui viennent me voir en me disant « Bon, alors, quand est-ce qu'on fait un film ?» Ce qui est la situation s'est inversée par rapport à il y a 3 ans ou 3-4 ans où j'allais au AES, c'est-à-dire l'Audio Engineering Society, la convention des ingénieurs du son aux États-Unis. J'allais à la pêche. Maintenant, je ne vais plus à la pêche. Les gens viennent me voir. Ils me serrent la main. C'est vraiment un truc assez rigolo. J'ai l'impression que la tendance s'est inversée. Donc, je suis assez content. Mais en même temps, je ne vais pas pouvoir tout faire, ça c'est clair.
Oui, puis j'imagine que quand vous avez commencé, vous avez vraiment choisi les personnes.
Oui.
Au bout d'un moment, quand on a du succès, j'imagine que peut-être vous contactez des gens qui font des choses peut-être intéressantes, mais avec, sur les canapés desquels vous n'auriez peut-être pas obligatoirement envie de... On ne donnera pas de nom, mais...
Non, je ne donnerai pas de nom. Oui, il y en a quelques-uns, mais il y a encore pas mal de gens qui font des choses formidables. Et évidemment, c'est ceux-là qui m'intéressent, bien entendu.
Est-ce que vous avez développé ce concept? Est-ce que vous avez envie de le faire évoluer, de le faire bouger? Ou pas spécialement pour l'instant, vous avez envie plutôt de rencontrer encore les quelques personnalités que vous avez citées ou...
J'aimerais bien continuer à renforcer ce que je fais. Ça, c'est clair que ça continuera. Mmh. Ça va continuer comme ça parce qu'effectivement, vous le dites, c'est unique. Personne ne le fait. Donc, je suis très content de pouvoir le faire ça. Et puis, maintenant, le temps, c'est vrai que les gens me donnent le temps pour le faire. Ils sont assez disponibles. Et donc, j'aimerais bien continuer à faire ce genre de choses. Mais je vais peut-être m'orienter vers des formats plus courts aussi, parallèlement. Et ça sera peut-être des synergies avec d'autres, soit des sites professionnels, des sites internet qui font des choses dans ce domaine, ou alors même un magazine américain qui s'appelle T-Pop, que j'adore, qui font des interviews non seulement de fabricants de machines, mais de grands producteurs et d'ingénieurs du son et de musiciens. Et c'est un très 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 bon magazine qui est vraiment un peu comme un fanzine, mais c'est des gens que j'ai énormément de respect pour leur approche. Et là, je les ai contactés récemment, on va peut-être faire des choses ensemble. Alors, il y aura peut-être des formats un petit peu différents. C'est peut-être un peu plus court, je ne sais pas encore très bien comment on va... Ça va dépendre des sujets qu'on va avoir à faire.
Bon, on vous souhaite bonne chance pour tous ces futurs projets. Merci Alain Lekim.
Merci beaucoup.
We'll be right back. spring, love spring, love spring, love spring, love spring.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.